Le tintement clair d'une cloche matinale fit sursauter Emmerich. Il s'était endormi si profondément que son vœu de se lever tôt s'était évaporé dans les limbes du sommeil. Il jeta un œil à sa montre, regretta un instant de n'avoir pas choisi un authentique lieu de vacances, sans programme ni horaire, où il puisse engager sereinement une grasse matinée sans le moindre soupçon de culpabilité. Puis il se souvint du pacte singulier passé avec le frère et se trouva revigoré dans l'idée qu'il avait fait le bon choix en entrant dans ce lieu de silence où se nouait un suspense qui pouvait se révéler plus palpitant que les passages balisés d'un parc d'aventure. Là, rien n'était cadré ni sécurisé, rien n'était programmé, rien n'était dit à l'avance. Mine de rien, le moine avait pris un grand risque, celui de décevoir. Emmerich se souvint de son étonnant aplomb qui contrastait notablement avec la légendaire humilité monastique. Était-il possible que l'homme à la bure noire fût à ce point au fait des mouvements qui travaillent l'âme humaine qu'il en vienne à proposer de partir spontanément dans n'importe quelle exploration? Le moine n'avait pourtant rien du vieil ermite chenu qui a déjà médité pendant une petite éternité sur la vanité de toutes choses et la grandeur néanmoins de quelques-unes. Il était dans la fleur de l'âge, avec un regard pétillant, encore tout chargé d'enfance, prompt à s'émerveiller, grand ouvert à la rencontre. En faisant une brève toilette, Emmerich s'aperçut qu'il n'avait finalement retenu aucun thème de prédilection pour les rencontres au sommet proposées par frère Théophane. Il ressentit cette incertitude avec le même remords pénible que d'avoir laissé passer une date limite après réception d'une lettre recommandée et d'encourir de ce fait des pénalités pour négligence. Il sourit de cette allusion en se disant quant à lui-même « Cesse donc ce genre d'autoflagellation. Il n'y a pas de péril en la demeure et pas de pénalité de retard dans un univers où l'on a l'éternité devant soi. Pas de prière de répondre sous quinzaine, mais uniquement des prières et des dizaines sans limitation de temps, de fréquence et de durée. » Et c'est paré de cette stupéfiante désinvolture, qui lui ressemblait si peu, qu'il arriva au réfectoire pour partager le petit déjeuner. Il n'y avait pas âme qui vive. L'atmosphère était entièrement dédiée au silence, un silence monacal. Mais bientôt, il entendit sonner les matines et quelques minutes plus tard, une rumeur envahit le couloir et la salle s'anima pour de bon. Emmerich comprit qu'ils revenaient tous de la prière du matin et que ce rituel leur avait donné force et joie, alors que lui-même avait encore la langue pâteuse, des idées floues et le corps au ralenti. Il se promit de faire mieux le lendemain matin. Le frère apparut, prime sautier et frais, comme s'il ne connaissait que les mots « veillé », « éveillé », « émerveillé », et que le mot « sommeiller » ne faisait partie ni de son vocabulaire, ni de ses habitudes de vie. Il salua chaleureusement chaque convive et appela la bénédiction sur le repas du matin partagé en frères et sur la bonté du jour qu'il appartenait à chacun d'animer de son travail, de sa contribution joyeuse et de son espérance vive. Comme convenu, Emmerich suivit ensuite le frère dans une petite pièce de travail mansardée qui se trouvait sous les toits au niveau du grenier du monastère. Le moine l'appelait « la chambre haute » parce que c'était la pièce la plus haut perchée et la plus inaccessible du bâtiment. On y parvenait par une courte échelle de meunier et, pour y entrer, on devait baisser la tête pour passer une porte étonnamment basse. Pour des contraintes architecturales et par souci d'humilité, précisa le frère, en levant un index professoral qui frisait la parodie. Puis le religieux invita Emmerich à le tutoyer, non par une de ces familiarités forcées si répandues dans le monde, mais dans le souci de favoriser un authentique échange fraternel. Emmerich était au pied du mur. Quel mur ? Celui des grandes questions existentielles. Leçon numéro 1. Mais sur quel thème, au fait ? Emmerich se rendit compte du ridicule de la situation. Le frère allait l'interroger sur son choix, qui aurait dû être préparé comme convenu, et Emmerich se trouvait pareil à un élève au moment exact où il est convoqué par un examinateur et qui éprouve cet insidieux malaise d'avoir la tête parfaitement vide, l'esprit démobilisé, la volonté désertée, les lèvres incapables de formuler la moindre pensée cohérente. On prie ? Demanda le moine en plissant les yeux. Suggestion providentielle qui le tirait d'embarras. Emmerich n'eut pas de mal à acquiescer. Cette brève rémission était l'occasion bénie d'échapper à son calvaire. Seigneur, ouvre nos lèvres sur des vérités que l'on ne connaît pas encore et qui résident cependant dans le secret de notre cœur. Délivrons-nous ce qui mérite d'être mis au monde. Éloigne de nous la ténèbre afin que rien ne nous assaille, qu'il ne soit un combat où triomphe la vie. Que la lumière qui, par la foi, brille dans nos âmes, resplendisse dans nos actions, afin que dans les fluctuations de ce monde, nos cœurs restent fixés là où se trouvent les vraies joies. Amen. Aymeric imita le frère en tenant les yeux clos. Il se surprit à les garder fermés dans le silence qui suivit et sentit une merveilleuse force pacificatrice le traverser. Il était vide de toute détermination. Mais contrairement à ce qu'il avait éprouvé quelques minutes auparavant, cette vulnérabilité, cet abandon, ce sentiment de non-savoir, lui procurait une paix d'une grande douceur. Lui revint alors cette question qui avait abordé son esprit la veille au soir, au moment où il cherchait un thème. Anodine sur le moment, cette parole devenait cruciale en cet instant. Au fond, tout n'est-il pas relié? Quand il ouvrit les yeux, Aymeric croisa le bon regard du moine, s'emplit de sa bienveillance, car il était clair que lui-même non plus n'avait rien prévu. Il se tenait dans un état de réceptivité silencieuse, et Aymeric comprit que son attitude n'était pas celle d'un maître, d'un professeur ou d'un médecin de l'âme, mais bien celle d'un frère en humanité. Il eut un soupir de bien-être. Il venait de trouver le thème qui scellerait cette amitié. Ou plutôt, pour être honnête, il n'avait rien choisi. Il avait été choisi. Un peu comme l'on dit « l'idée m'est venue », eh bien oui, le thème était apparu dans son esprit comme l'aboutissement d'une insondable fatalité. Quelque chose se tramait dans le secret du monastère, sans qu'il le sache. Son désir fou venait de lui sauter à la gorge, dans un surgissement imprévisible. Et il comprit pour la première fois que de cette question-là, sa vie dépendait.